Bonjour, alors voilà, il y a beaucoup d'exhortations, c'est bien, une bonne chose de pouvoir entendre la parole de Dieu de diverses manières, n'est-ce pas? Alors j'aimerais parler du semeur, la parabole du semeur. Vous le trouvez dans trois évangiles ou deux évangiles, et un tout petit peu différemment dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 8 présente les choses un tout petit peu différemment. C'est sensible, la différence, ça pose aucun problème avec les interprétations qui sont générées par la lecture dans l'évangile de Marc, par exemple, du même récit. Mais ça donne quelque chose de nouveau. Luc transmet quelque chose de nouveau. Si vous voulez, classiquement, on comprend la parabole du semeur comme étant, voilà, le Seigneur, et c'est comme ça que Jésus l'interprète. Le Seigneur vient semer la parole. Et il y a des cœurs qui sont soit durs, soit rocailleux, soit remplis de ronces et d'épines, ou soit correspondent à la bonne terre. C'est comme ça qu'on doit le comprendre, parce que c'est comme ça que le présentent les évangiles. Mais dans Luc, il ajoute à cela une autre dimension. Et l'autre dimension, c'est qu'il dit, vous le lirez très attentivement, Luc présente le récit exactement de la même façon que les autres, mais il donne l'interprétation de Jésus sensiblement différemment des autres évangélistes. Il donne l'interprétation selon laquelle vous êtes, ou ces graines sont des hommes et des femmes. Il dit que Jésus dit effectivement, même dans Luc, c'est retranscrit, que Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Ça commence comme ça, l'interprétation, quand vous lisez dans Luc 8. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais ensuite, il dit, ceux qui sont tombés sur le bord de la route, ceux qui sont tombés au milieu des ronces, ceux qui sont tombés dans la terre qui était rocailleuse, et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui... Autrement dit, il y a non-différenciation entre la parole de Dieu, la semence, et les hommes et les femmes. Et ce que je voulais retirer ce matin, c'est que le Seigneur implante dans les cœurs la parole de Dieu. Combien de gens ont entendu la parole de Dieu et ont été touchés? Et si la parole de Dieu vous a touché un jour, ça veut dire que la parole de Dieu est venue en vous. Oui, dans la graine, il y a ce mécanisme de vie qui est extraordinaire. Ça paye pas de mine, une graine. Ça ressemble à rien. Quand on la prend tout seul, on dirait, mais c'est rien, mais il y a un pouvoir extraordinaire dedans. Il y a une puissance extraordinaire qui est contenue dans cette graine. Et la parole de Dieu a été plantée dans vos vies ou a été mise dans vos vies. Je ne vais pas utiliser plantée parce que ça génère une confusion après. Mais a été mise dans vos vies. Mais qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire de cette parole qui a été mise en vous? Ça rejoint étrangement ce qui a été dit auparavant, et je vous demande juste de prendre attention à cela. Parce qu'il y a quatre types de situations dans lesquelles vous pouvez vous placer. Il y a quatre types d'endroits où vous pouvez vous placer avec cette parole de Dieu. Le premier cas, et vous le lirez attentivement, c'est lorsque la graine est tombée, la graine donc qui contenait la parole de Dieu, qui contenait la vie, elle est tombée sur le bord de la route. Elle est tombée sur le bord de la route, alors qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est piétiné et les oiseaux viennent manger et il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu. Ils ont été touchés dans leur cœur. Mais ils sont allés après se placer sur le bord de la route. Ils sont allés sur le chemin du monde. Et ils se sont laissés manger et détruire spirituellement par le monde. Parce que c'est ça qui fait que on voit tellement de gens qui peuvent être touchés, qui peuvent même répondre à l'appel du Seigneur. Est-ce qu'ils sont sincères? Mais bien sûr qu'ils sont sincères. Je parle là de gens qui sont sincères, qui ont vraiment reçu la parole à l'intérieur, mais qui restent ou qui se placent après sur le bord de la route. Non, ce n'est pas là que Dieu veut que vous soyez. Ce n'est pas sur le chemin du monde que l'on doit se trouver lorsqu'on a reçu la parole de Dieu. Parce que là, vous allez être piétinés. Parce que là, vous allez être dévorés. Et il n'y aura plus rien de vous, ni de la parole de Dieu qui a été mise en vous. Donc, ce n'est pas là qu'il faut aller si vous avez été touché par le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez été touché par le Seigneur? Est-ce que vous exposez après? Ou est-ce que vous allez chercher la bonne terre? Est-ce que vous allez vous mettre là où le Seigneur va pouvoir faire son œuvre? Et on va brosser un tableau dans les évangiles de la manière dont Jésus agit chez ceux qui ont entendu la parole et qui avaient un cœur qui était prêt à répondre. Et j'espère ce matin que notre cœur est prêt à répondre. Il y en a d'autres qui entendent la parole. Le Seigneur a touché leur cœur. Et ils retournent après dans les soucis. Ils vont dire, mais oui, mais ma vie s'est remplie de soucis. J'ai des ronces partout. J'ai des épines partout. Je ne peux pas faire autrement. Le Seigneur le sait. Les circonstances de votre vie, il les connaît. Mais il demande que vous alliez dans la bonne terre. Il demande que vous soyez là, placé où le Seigneur veut que vous soyez placé. C'est-à-dire pas géographiquement, nécessairement, mais que vous soyez dans la terre qui va vous permettre de porter du fruit. Et cette terre, c'est la présence même de Dieu. C'est vraiment être devant le Seigneur le plus souvent possible. Je sais que quand vous travaillez, vous avez l'esprit occupé à autre chose. Mais quand vous avez l'occasion dans la journée, eh bien, vous prenez le temps d'être dans la présence de Dieu. Combien de chrétiens ne le font pas? Et ils sont sur le bord du chemin parce qu'il n'y a plus de terre autour d'eux. Ils disent, oui, mais j'ai reçu la parole, j'ai été touché par la parole. Quand ils donnent leur témoignage, c'est le Seigneur m'a sauvé il y a 15 ans. C'était pas beau ce que j'étais, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie, j'ai eu une expérience. Il y en a qui vous racontent des expériences extraordinaires. Quelquefois, c'est un petit peu exagéré et pas vrai. Parce qu'ils se rappellent d'il y a 15 ans, mais c'est vieux ça, il y a 15 ans. Ça a été déformé avec le temps. Et ils ont été touchés par la parole et c'est ça leur témoignage. Non. La vie chrétienne, l'évangile, ça n'est pas juste d'avoir été touché par la parole, d'avoir reçu la parole dans son cœur. C'est d'avoir été constamment dans cette terre, cette bonne terre qui permet de porter du fruit, n'est-ce pas? Parce que c'est à vos fruits qu'on va vous reconnaître. C'est le fruit que vous portez, n'est-ce pas, qui va vous identifier devant Dieu comme appartenant à Christ. Et quel est le fruit que vous portez? Je vais en profiter encore pour vous donner les caractéristiques de ce fruit très rapidement, parce que la parole de Dieu nous donne exactement ce qu'il faut savoir. Porter du fruit, c'est vague. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ramener des gens au Seigneur autour de soi. Le brillant sur la croix n'a pas pu porter beaucoup de fruits à son époque. Il en a porté beaucoup depuis. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ramener des gens au Seigneur, ce n'est pas ramener des gens à l'Église. Porter du fruit, c'est porter le fruit qui est décrit dans Galates 5, 22, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté, n'est-ce pas? La fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que c'est ça que vous portez? Est-ce que, je ne parle pas à l'église le dimanche matin, est-ce que c'est ça que vous portez? Est-ce que c'est ça que vous portez à la maison? Est-ce que c'est ça que vous portez au travail? Est-ce que c'est ça que vous portez autour de vous? C'est là où vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans la bonne terre. Est-ce que vous vivez le sermon sur la montagne? Est-ce que vous aimez vos ennemis? Est-ce que si quelqu'un vous frappe ou vous fait un mauvais coup, vous le bénissez dans votre cœur et vous priez sincèrement pour lui dans votre cœur avec amour? Ou est-ce que vous avez des réactions de méchant, de méchanceté? Ça va déterminer dans quel type de terrain vous êtes. Oui, vous avez eu la parole, c'est incontestable. La parole de Dieu a été mise dans vos cœurs. Oui, vous contenez, vous êtes une graine qui contient dans ce monde la parole de Dieu, c'est incontestable. Mais vous allez mourir. Je vais mourir si je ne suis pas dans la terre dans laquelle il va falloir mourir d'une autre façon pour pouvoir porter du fruit. C'est le fruit que vous portez qui va déterminer dans quel type de terre vous êtes. La parole de Dieu reçue dans un cœur, quand la personne se trouve dans la présence de Dieu tous les jours de sa vie, eh bien, il se trouve environné spirituellement. C'est un mystère pour nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que l'humanité a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on ne voit pas cet environnement. On ne voit pas cet environnement spirituel, mais la Bible parle de recevoir à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? On reçoit la parole de Dieu, mais il parle aussi d'être entouré, d'être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir Christ en nous? Il y a les deux, on doit avoir Christ en nous et on doit être en Christ. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus un jour dans leur vie. Et je crois que Jésus est venu avec la parole dans leur cœur, mais ils ne veulent pas être en Christ. Et on doit être en Christ, on doit être dans la terre qui nous permet de porter du fruit, et c'est seulement en Christ. Est-ce que vous passez du temps avec Jésus tous les jours? Est-ce que votre cœur est déterminé à être dans sa présence, en rejetant les soucis sur Jésus-Christ, en disant « Seigneur, je ne veux pas qu'ils envahissent ma vie. » Et c'est étrange parce que il y a des gens qui ont plein de problèmes et qui vivent en paix. Vous avez vu un enfant qui est dans une situation de guerre, dans une situation d'épreuve terrible, mais qui se trouve auprès de ses parents et qui dort tranquillement sur ses parents. C'est la paix. Parce que, oui, il y a des épines, mais il ne les voit pas. Parce qu'il voit autre chose, parce qu'il est dans la bonne terre, n'est-ce pas? Et je voudrais tellement qu'on puisse les uns et les autres connaître ça. Si on ne porte pas le fruit de l'esprit, alors on est voué à être dévoré et piétiné. Et c'est une juste place, c'est une juste conséquence. Parce que c'est ça qui a détruit la foi dans notre pays en Occident. C'est les gens qui ont dit « j'ai reçu la parole de Dieu » et qui n'ont pas porté le fruit qui correspondait à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être vous avez des cailloux à l'intérieur de votre vie. Mais ces cailloux, c'est ça qui empêche qu'il y ait des racines. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes instable. Quelque chose qui fait que vous avez des périodes où vous avez envie de servir le Seigneur, vous êtes tout pour le Seigneur, et des périodes où il n'y a rien. Des périodes on, des périodes off, comme diraient les Anglais. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'Évangile? Il n'y a pas d'ombre de variation dans l'Esprit de Dieu et en Dieu. Alors pourquoi chez vous, il n'y a pas des ombres de variation, il y a des montagnes de variation? Soyez dans la bonne terre. Et c'est à nous chacun de se placer dès aujourd'hui dans cette présence de Dieu qui va nous permettre de porter du fruit. Seigneur, je veux porter du fruit. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui dit ça du fond du cœur, est-ce que vous pensez que Dieu va lui dire non, 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 non? Évidemment, il va venir et il va répondre. Et dans les évangiles, il y a plusieurs, tellement de témoignages. Il faut lire les évangiles. Alors, il y a des gens qui aiment bien l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, ça donne toute une dimension symbolique extraordinaire. Ils n'aiment pas les évangiles parce que c'est concret, c'est des histoires simples. Prêcher sur l'évangile, c'est pas trop bien vu, parce que c'est facile. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et on a besoin d'entendre la simplicité de l'évangile. Est-ce que vous croyez que Jésus est compliqué? C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui avons des ronces, qui avons des rocs, au lieu d'avoir juste la simplicité de ce que Dieu veut dans nos vies. Et j'aimerais prendre le témoignage de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans comme premier exemple. Je vais brosser plusieurs tableaux, mais pour montrer combien le Seigneur répond quand on est disposé à s'approcher de lui, à se trouver dans sa présence, à trouver qu'il chercher à ce qu'il agisse dans nos vies et d'être, oui, près de lui. Eh bien, cette femme, vous savez, elle s'est approchée de Jésus parce qu'elle avait une perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent dans les médecins. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui sent qu'il a perdu la vie, qu'il est en train de perdre la vie spirituellement, qu'il est en train de perdre son sang. Vous savez que le sang représente la vie. Vous savez que lorsque l'homme et la femme ont été placés dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Il y a des chrétiens qui pensent que c'était interdit, l'arbre de la vie. Non, il est tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul arbre qui leur était interdit. Au passage, vous voyez que leur perception était différente. Ils voyaient des choses que nous ne voyons pas. Comment pouvaient-ils voir un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? Comment peut-on voir un arbre dans un jardin qui est un arbre de la vie? Eh bien, c'était le cas, ils pouvaient le voir. Mais comme ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi, eh bien, Dieu les a privés de l'arbre de la vie. Et de manière étrange, lorsque Noé est sorti de l'arche, plus tard, vous lirez ça, eh bien, Dieu a dit, vous pouvez manger de tout ce qui se trouve, de tous les animaux. Il va mettre des restrictions à son peuple plus tard. Mais il dit, vous pouvez manger de tous les animaux. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec le sang. Vous mangerez la chair, mais pas le sang. Parce qu'il dit là, à ce moment précis, le sang, c'est la vie. Et vous ne pouvez pas prendre le sang. Mais l'évangile, ce qui est merveilleux, c'est que c'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est descendu et qui a dit, voici ma chair et voici mon sang. Mangez de ma chair et buvez de mon sang. Si il y avait eu la transsubstantiation, c'est-à-dire si au moment où Jésus, en présentant la coupe de vin, le vin s'était transformé en sang, c'eût été une abomination, n'est-ce pas? Évidemment, ça ne s'est pas passé. C'était symbolique. Mais ce que Jésus enseignait, c'est que son corps permettait la vie et son sang permettait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important dans le message de l'Évangile, c'est de savoir que Jésus, que la vie de Dieu peut être en nous. Et quand on reste dans sa présence, eh bien, il y a cette vie, ce sang de Jésus qui coule à travers nos vies, n'est-ce pas, en permanence. Et là, cette femme, elle perdait son sang, elle perdait sa vie. Je n'ai plus d'espoir. Et si je devais donner un titre à mon message, c'est « Seigneur, je n'ai plus ou je n'ai pas ». C'est ça le titre que j'avais pensé pour ce message, avec trois petits points. Et cette femme était dans un état où elle était « Seigneur, je n'ai plus d'espoir. J'ai donné mon argent aux médecins, j'ai fait confiance aux hommes, j'ai fait confiance à tous les... » Et ici, il y a des gens qui, parce que je sais, parce que moi je suis tellement souvent dans cette situation où on se dit « ça y est, je crois que je vais trouver la solution pour ce problème spirituel, pour cette perte de sang, je vais trouver une solution ». Je crois que c'est ça. Et on a de l'espoir et puis ça ne marche pas. Jusqu'au jour où elle va vers Jésus et elle le touche. Et Jésus, vous savez, il est touché. Il se laisse toucher par les hommes et les femmes qui viennent vers lui sincèrement. Bien sûr, quand il a été touché, il a dit « Mais qui m'a touché ?» Et bien sûr, Simon-Pierre, qui est vraiment l'incarnation du français, même s'il n'était pas français, hyper rationnel. Il a dit, mais enfin, Jésus, tu vois bien que tu es écrasé par tout le monde. Il s'est dit un peu plus tôt qu'il était étouffé par la foule, Jésus. Il a dit, tu vois, tout le monde est en train de t'écraser et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? Pierre, il était comme ça. Lui, il fallait que ce soit carré, etc. Et Jésus, il était en train de dire quelque chose selon lui qui n'était pas très cohérent. Pierre, c'était comme ça. Pierre, il avait une épée quand Jésus était... Et quand Jésus a été livré, quand Judas est venu avec la cohorte, il avait une épée. Très cohérent. C'est comme si on allait faire de l'évangélisation avec un revolver, n'est-ce pas? Au cas où on se ferait attaquer. Mais il pensait aux choses concrètes. Et Jésus a dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Et ce matin, si tu touches Jésus, si tu veux toucher Jésus, il le saura. Il y a plein de gens qui vont toucher Jésus, exactement comme un enterrement, on passe devant le cercueil et on touche le cercueil. Ça ne touche pas du tout la personne qui est dans le cercueil. Il y a plein de gens qui vont dire des choses merveilleuses sur Jésus dans les églises aujourd'hui. Ça ne touche absolument pas le Seigneur. Ce qui touche le Seigneur, c'est quand tu viens en disant « je n'ai plus d'espoir » ou « je n'ai pas d'espoir, c'est toi que je veux toucher, je veux ta présence. » Et cette femme est venue tremblante, n'est-ce pas, et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée. » Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu Jésus qui vous donne cette réponse et qui vous donne la vie? Et vous dites, je sais maintenant que je suis dans la présence de Dieu. Cette femme, on n'en entend plus parler, mais quelle est l'importance d'avoir son nom, d'avoir son témoignage, d'avoir son histoire. Comment elle a fini? Elle était dans la présence de Dieu. Elle avait reçu ce qu'elle avait compris, que c'était dans la présence de Dieu en touchant Jésus, qu'elle pouvait être délivrée, n'est-ce pas? Qu'elle pouvait vivre, qu'elle pouvait recommencer à vivre. Et ne pas mourir. Dans Jean chapitre 4, vous avez la Samaritaine. Et la Samaritaine, c'est une femme religieuse. Et Jésus lui pose une question très précise. À un moment, il savait la réponse, parce qu'il va compléter la réponse de la Samaritaine. Il lui dit « Va chercher ton mari ». Et là encore, elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Le titre, c'est Je n'ai plus, Seigneur, je n'ai plus, ou Seigneur, je n'ai pas. Il voulait juste que cette femme qui avait commencé à entendre la parole du Seigneur, vous savez comment on sait qu'elle a entendu la parole du Seigneur avant ça? C'est qu'il y a quelque chose qui faisait qu'elle restait avec Jésus. Elle lui posait des questions, elle avait envie de rester. Sinon, elle aurait dit, bonne journée, monsieur, et à l'occasion, hein, et elle serait partie, n'est-ce pas, comment on fait? Ou bien, j'ai oublié à la maison quelque chose, il faut que je retourne. Elle aimait la présence, elle avait reçu la parole, mais elle avait besoin d'autre chose pour être dans la présence de Dieu. Elle avait besoin de déclarer quelque chose qui était troublant pour elle. Et Jésus n'a pas dit, vous remarquerez que Jésus ne lui a pas répondu en disant, ah, ça c'est embêtant comme situation. Tu as eu 5 maris, maintenant tu es avec celui qui n'est pas ton mari. Il va falloir régler ça et tu reviens me voir. Jésus l'a sauvé sur place. Parce qu'il savait une chose, c'est qu'un jour, à partir du moment où elle était sauvée, elle allait pouvoir de elle-même voir quelle est la volonté de Dieu concernant sa situation de mariage. C'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses dans les cœurs. On doit amener les gens à la rencontre avec Jésus et avec Jésus seul. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans la personne, quand il y a ce baptême dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, de ce terme-là, parce qu'ils ont peur qu'ils vont être baptême dans le Saint-Esprit dont tu parles. Ou est-ce que vous avez peur de faire ça? Mais en tout cas, cette femme, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a eu la présence de Dieu. Ce n'est pas une deuxième expérience. Mais c'est une condition nécessaire pour vivre. Il y a une seule expérience qui s'appelle la nouvelle naissance. Quand un enfant né, il reçoit le sang qui fait vivre son corps, il vit. Mais si cet enfant n'est pas dans un environnement favorable, il meurt. Si on ne le touche pas, il meurt. Ceausescu a laissé des enfants dans les orphelinats. Parce qu'il a massacré les parents chrétiens. Les enfants étaient dans les orphelinats en Roumanie et quand Ceausescu est tombé, eh bien, il y avait dans les orphelinats en Roumanie des enfants qui étaient mourants, qui attrapaient des maladies, qui devenaient malades mentaux parce qu'on ne les avait pas touchés. En Chine, c'était la même chose avec le quota de naissance. Voilà l'œuvre de l'athéisme. Voilà l'œuvre du rejet de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, eh bien, il y a cette vie qui nous touche. Et ces enfants étaient vivants. Oui, ces enfants étaient vivants, ils avaient reçu la vie. Mais parce qu'ils n'étaient pas dans l'environnement qui leur a permis de se développer et de porter du fruit, ils n'ont pas pu garder cette vie. Et c'est ça le message de l'Évangile. Il y a une seule expérience, la nouvelle naissance. Mais si l'environnement dans lequel vous mettez, je parle l'environnement spirituel, je ne parle pas de l'environnement de votre maison, de votre travail, je parle de l'environnement spirituel, si l'environnement spirituel dans lequel vous êtes n'est pas celui de la présence de Dieu, alors vous mourrez. Vous ne pourrez pas vivre. Et cette Samaritaine, elle a entendu la parole de Dieu, elle était dans la présence de Dieu. Sa vie était changée. Et le reste, son histoire, on ne connaît pas après. Mais comment pouvait-elle oublier? Comment pouvait-elle vivre autrement que dans la présence de Dieu? Et donc, ce récit a commencé parce qu'elle a dit « Seigneur, je n'ai pas ». Il fallait qu'elle le dise, il fallait qu'elle le verbalise. Et elle était libérée. Un peu plus loin, chez l'Évangile de Jean, chapitre 5, eh bien, vous lirez l'Évangile de Jean, n'est-ce pas aussi? C'est important de lire entièrement l'Évangile de Jean. Pas en 30 jours. Lisez-le en un jour, si possible, et régulièrement. Chapitre 5, il y a là un homme qui est assis à la porte des moutons, à la porte des brebis. Oh, il ne pouvait pas être mieux placé. Parce que Jésus, dans le chapitre 10 de Jean, a dit « Je suis la porte des brebis ». Mais il était placé là, dans cette porte de la ville qui s'appelait la porte des brebis. Et il attendait un miracle depuis des années, depuis 38 ans. Il était paralysé. Oui, il avait la vie en lui, mais il était paralysé. Et il était sûr que le seul moyen de sortir de cette paralysie, c'était de se trouver dans la piscine de Bethesda en premier. C'était ça l'enseignement qu'il avait, c'était ça la conviction de son cœur. Cet homme qui était vivant, oui, peut-être ce matin vous êtes vivant, mais vous êtes paralysé, et depuis des années. et vous êtes sûr que pour en sortir, il va falloir que vous passiez par la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, ce n'est pas celle qu'on a commandée. c'est pas ça. Mais vous êtes sûr, il y a des gens qui sont sûrs qu'ils vont devoir subir l'imposition des mains et que c'est ça qu'il va falloir faire pour être guéri de leur paralysie. Non, c'est pas ça. C'est pas la peine d'aller à Paris. C'est pas la peine d'aller loin pour entendre un prédicateur particulier. C'est pas la peine d'aller aux États-Unis comme certains vont faire pour avoir une expérience particulière qui va vous, soi-disant, vous libérer de votre paralysie. Celui que vous devez rencontrer, c'est la porte des brebis. Et cet homme, il était là, sans le savoir, au bon endroit. Parce que Jésus, la vraie porte des brebis, est venu vers lui. Et qu'est-ce qu'a dit cet homme? Il a dit, je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un qui puisse m'aider. Je n'ai personne. Et peut-être, c'est ça, votre situation. Il n'y a personne qui peut comprendre. Les anciens ne peuvent pas me comprendre. Ma situation de paralysie est trop compliquée. Mais j'ai besoin de rencontrer Jésus. Et ce matin, vous saisissez l'occasion de décider d'être désormais dans la présence de Dieu et de le laisser vous guérir de votre paralysie. Combien de chrétiens paralysés? Combien de chrétiens sont troublés par le fait qu'ils ne peuvent pas agir? Vous savez, le cerveau commande quelque chose, mais les membres ne répondent pas. Et ils disent, voilà, je sais que je dois faire comme ça, je sais que je dois pas me mettre en colère. Et malheureusement, je me mets en colère. Je sais que je dois faire ceci, je devrais faire ceci, mais j'y arrive pas. Et le Seigneur ne veut pas attirer tes regards vers une procédure, vers un processus, vers une technique qui pourrait te délivrer, vers un enseignement qui pourrait te délivrer. Il veut juste t'amener à Jésus ce matin. À Jésus, Jésus va te donner la guérison de ta paralysie spirituelle. Mais il faut que tu sois dans cette présence de Jésus, que tu cherches la présence de Jésus. Chapitre 6 de Jean. Alors je sais, il y en a qui sont en train de regarder combien il y a de chapitres à Jean, parce que si on est à midi au chapitre 6, alors là, on n'a pas fini avant longtemps. Chapitre 6. Il y a la question des multiplications des pains, n'est-ce pas? Et là, la chose, c'était, Seigneur, nous n'avons pas. Seigneur, je n'ai pas assez à manger pour leur donner. Seigneur, je ne peux pas donner à manger à toute cette foule. Qu'allons-nous leur donner à manger? Eh bien, peut-être aussi c'est ça que tu ressens ce matin, que tu voudrais donner à manger spirituellement. Combien je sens ça souvent. Combien je voudrais que, quand quelqu'un vient pour la première fois dans une église, qu'il ressorte ayant mangé spirituellement. Qu'il ait reçu la parole de vie dans son cœur et que cette personne soit sauvée. Je ne vois pas le sens de se rassembler s'il n'y a pas la vie qui libère, s'il n'y a pas les chrétiens qui sont libérés, s'il n'y a pas les chrétiens qui sont libérés du fait qu'ils n'ont rien à apporter aux autres. Quand ils vont témoigner, vous savez, si on témoigne à quelqu'un, c'est pas vos paroles qu'on écoute. C'est tout ce qu'il y a autour de vos paroles. Les gens vont oublier vos paroles très très vite. Ils vont dire, en rentrant chez eux, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais il y avait quelque chose dans cette personne. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont rien à donner. Ils n'ont rien à donner à manger aux gens qui ont faim spirituellement. Vous avez des gens qui ont faim et soif spirituellement de Dieu juste autour de vous et vous n'avez rien à leur apporter? Seigneur, on n'a rien à manger pour leur donner. On a des petits pains et du poisson et c'est pas grand-chose. Et le Seigneur veut donner l'abondance, n'est-ce pas? Il veut que vous puissiez apporter quelque chose de spirituellement. Ce n'est pas des paroles seulement. Ce sera la puissance de Dieu, la nourriture spirituelle pour ces personnes. C'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de fruits de l'esprit. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent quelqu'un qui peut vivre le serment sur la montagne, qui peut aimer ses ennemis. Vous savez que quand quelqu'un vous fait du mal et qu'il voit que vous les aimez, il ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire, ça touche les cœurs. Et il faut que ce soit le cas, il faut qu'on le vive, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez le vivre ce matin? Si c'est vrai que vous voulez, alors en rentrant chez vous, dès que vous pouvez, vous priez, Seigneur, ta parole est dans mon cœur, mais je veux répondre aujourd'hui. Quelqu'un a prié tout à l'heure, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez aujourd'hui au Seigneur. Répondez au Seigneur pour qu'il vienne remplir votre vie. Rapidement, on passe au chapitre 8. Quelqu'un qui est amené vers Jésus en flagrant délit d'adultère. Alors là, on se dit, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir parce que la loi était très claire là-dessus. Et cette femme n'avait plus d'espoir de vivre. Seigneur, je n'ai pas de justification. Elle n'a rien dit. Mais Seigneur, je n'ai pas de moyen de me défendre. Je n'ai pas d'avocat. Et l'apôtre Jean nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais cette femme, sa situation était exposée. Sa situation était confessée. Et d'une certaine façon, Jésus voyait de sa vision, n'est-ce pas, spirituelle, sa vision divine. Il voyait, je ne sais pas combien ils étaient, ces accusateurs. Peut-être ils étaient 4 ou 5 qui étaient là à la traîner, parce qu'on ne sait jamais. Il faut être 4 ou 5, n'est-ce pas, pour traîner une femme comme ça, qui vient de commettre l'adultère. Eh bien, ils étaient 4 ou 5. Eh bien, Jésus voyait 4 ou 5 adultères. Et l'autre, la femme, il ne la voyait pas comme adultère, parce que son péché était confessé. Ce qui vient à la lumière est lumière, nous dit Paul dans l'épître aux Éphésiens. Ce qui est manifesté à la lumière devient lumière. Cette femme n'était plus adultère. C'était la seule du groupe qui ne l'était pas. Les autres l'étaient. Comme la Samaritaine, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il y a des gens qui disent, parce que en fait, je vis avec des hommes différents. Et il y a des gens qui disent, ah non, moi je vis, des femmes qui disent, non, moi je vis avec mon mari, je n'ai qu'un mari, etc. Et des hommes qui disent, moi je n'ai qu'une femme, je n'ai jamais été infidèle, etc. Mais Jésus peut-être va vous dire, le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Tu ne le traites pas comme si c'était ton mari. Alors pourquoi tu dis que c'est ton mari? Et peut-être aux hommes, il dit, tu dis que tu n'as qu'une femme, mais tu ne traites pas ta femme comme tu devrais la traiter. Donc tu n'as pas de femme. Parce que si tu avais une femme, tu la traiterais comme ta femme. Mais c'est dans la confession, dans le fait de le dire, Seigneur, je n'ai pas de mari. Et cette femme n'a pas confessé son adultère. Il a été dénoncé, c'est venu à la lumière. Et elle était libre. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Parce qu'elle était dans la présence de Jésus. Dans cette présence de Jésus, c'est là où elle pouvait commencer à porter du fruit. Jésus, vous savez, les hommes devaient l'accuser comme ça, en pointant du doigt. Bien sûr, vous connaissez la remarque toujours, c'est que quand on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous, n'est-ce pas? Vous connaissez ça. Mais Jésus a pointé du doigt aussi. Il n'a pas pointé du doigt vers les accusateurs, parce qu'il savait que les accusateurs se faisaient référence à la loi de son père. Mais il a pointé le doigt par terre. et il a écrit quelque chose par terre. Et je voudrais tellement que ce matin, on puisse savoir que le Seigneur nous a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus lui a dit ça, quelle libération. Moi aussi, je te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas. On attend que le Seigneur dise, ah oui, alors là, c'est franchement grave. Et bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est terrible. Il y a des gens qui ont commis des choses terribles dans leur vie. Des gens qui ont tué. Ils ne peuvent pas le mettre à jour parce qu'ils se disent, que vont me dire les anciens? Que vont me dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Et le Seigneur te dira une chose, c'est je ne te condamne pas. Tu m'as trahi, tu m'as abandonné, mais je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Reviens à moi, sois dans ma présence et tu porteras du fruit. Que ce matin soit ça pas seulement le message qu'on entend, pas seulement la parole qui est mise dans nos cœurs, mais que ce soit ça aussi, que ce soit l'occasion pour nous d'être dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. D'être dans le Saint-Esprit chez vous, à votre travail. Ne laissez pas le monde envahir votre vie. Soyez dans la présence de Dieu. Et c'est là où vous allez porter du fruit. Et si vous voyez que le fruit de l'Esprit commence à se porter chez vous, si vous voyez que après quelque temps, ça se voit, c'est pas brutal comme ça, c'est le fruit, ça vient tout doucement, n'est-ce pas? Ça vient tout doucement. Eh bien, si après quelque temps, vous dites, voilà, ça fait longtemps que je ne me suis pas mis en colère. Eh bien, voilà, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vous fait porter du fruit. Ça fait longtemps que j'ai changé mon vocabulaire. Je n'ai pas fait d'effort. Ça fait longtemps que mes réactions, mes attitudes ont changé. Eh bien, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne terre. Ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler vos vies. Et c'est ça qu'il faut. Nous pouvons seulement semer la parole, mettre la parole dans les cœurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait le reste. Amen.